Hanriner conte Le mort-vivant. Il y avait une fois dans un pays du Nord une reine la plus belle du monde, mais de méchants démons la possédaient. Le fils du roi d'Arles, ayant connu par la renommée sa beauté et son malheur, prit une grande somme d'argent et, sans confier son projet à personne, partit dans l'espoir de la délivrer et de l'épouser. Le soir du premier jour de voyage, il arriva dans une ville étrangère. Tout le peuple, sur une grande place, criait, s'agitait et se querellait autour d'un cercueil. Le prince demanda ce qui causait un aussi grand désordre. Le défunt, lui dit-on, a laissé des dettes considérables et ses créanciers s'opposent à ce qu'on enterre. Ce sont donc des gens sans foi. Non, ce sont d'excellents chrétiens, mais ils s'en tiennent que davantage à leur argent. Ils en ont besoin pour les bonnes œuvres qui plaisent véritablement à Dieu et que leur indique leur confesseur. Et ils en ont besoin pour acheter des indulgences. Et qu'on enterre ce mort, dit le prince indigné, je paierai tout ce qu'il doit. Quand le prince généreux eut fini de payer, il ne lui restait plus un denier de l'argent emporté pour le voyage. Il s'assit à l'écart, heureux de sa bonne conscience, mais un peu embarrassé pour la suite du dessein qu'il avait mis en route. On est toujours un peu embarrassé de se trouver sans le sou quand c'est la première fois que cet accident vous arrive. La pauvreté est un métier comme un autre et qui exige apprentissage. Mais un homme frappa sur l'épaule du prince généreux et lui dit « Monseigneur, Dieu m'envoie pour vous tirer de peine. » « Mais qui t'a dit de m'appeler Monseigneur et qui es-tu ? » « Je suis le mort qu'on enterre grâce à vous. »« Mais tu as l'air bien vivant pour un mort, » dit le prince généreux. Mais, ayant mieux regardé son interlocuteur, il vit que de ses yeux sortaient d'étranges lumières qui n'étaient pas de ce monde. La prunelle de cet homme avait la forme d'une croix, et un Jésus de flamme était étendu sur cette croix. D'ailleurs, le mort-vivant ajouta « Le Seigneur m'a dit, va et fais œuvre de vivant jusqu'à ce que le fils du roi d'Arles ait délivré des démons, la plus belle reine du monde. Va, c'est moi qui vis en toi avec toute ma prudence. » Comme le prince généreux n'avait rien confié de son projet à personne, il fut bien forcé de reconnaître que Dieu accomplissait un miracle pour le récompenser de sa bonne action. « Mais que ferons-nous et où irons-nous ? » dit avec confiance le prince généreux. « La prudence du Seigneur qui vit en toi a dû t'apprendre que je n'ai plus un denier dans mes poches. Nous puiserons dans les trésors de mon oncle. » « Qui est ton oncle ? » ?»« Un géant riche en argent, riche en objets magiques, riche de trois têtes énormes. » Riche d'une force qui lui permet de lutter seul contre 500 hommes armés et de les vaincre. Hélas, si nous essayons de toucher à ces trésors, il ne fera qu'une bouchée de nous deux, à peine si nous remplirons sa dent creuse. Homme de peu de foi, oubliez-vous que la prudence du Seigneur est en moi. Homme de peu de mémoire, oubliez-vous que dans toutes les histoires, les géants sont très bêtes. Montons seulement à cheval. » À une demi-lieue du château, le mort-vivant cacha le prince généreux dans une grotte. Puis il chevaucha seul à toute bride et vint frapper à la porte de toutes ses forces. Le géant, furieux d'être réveillé dans son premier sommeil, cria « Qui est là ? » ?»« C'est moi. Qui ça, moi ? Tout le monde s'appelle moi. » « Moi, son neveu. »« Oh, mais comment est-ce possible ? On m'a dit que tu étais mort. »« Oh, dis tant de choses. Non, je viens t'apporter des nouvelles pressées et bien mauvaises, mon pauvre oncle. » Mais les trois têtes du géant éclatèrent de trois rires si formidables qu'ils firent trembler dans le lointain trois montagnes, soulevèrent trois tempêtes sur trois océans, et firent déborder trois fleuves dans trois vallées. Et elles dirent, les trois têtes monstrueuses, « Comment des nouvelles seraient-elles mauvaises pour nous ? Nous sommes trois têtes et nous pouvons battre 500 hommes armés et les faire fuir comme une paille dans le vent. » « Sans doute, dit le mort vivant, mais le roi a juré de te tuer, et il approche avec 20 000 hommes d'armes. « Oh, mais nous sommes perdus !» gémirent les trois têtes. Et dans trois églises lointaines, trois cloches se mirent à sonner le glas toutes seules. « Je te sauverai, dit le mort-vivant, mais jure d'abord que tu me donneras en récompense les quatre choses que je te demanderai. » Le géant ayant juré, son neveu l'enferma dans la cave. « Ne bouge pas, quoi qu'il arrive, je garde la clé jusqu'après le départ du roi. Ne te trouvant nulle part, il te croira au loin et licenciera son armée. Alors je viendrai t'ouvrir. » Le mort-vivant et le prince généreux passèrent la nuit dans le château. Ils firent de grands bruits, comme s'il y avait toute une armée. Au matin, le prince puisa largement dans les trésors du géant et partit en avant. Quand il fut assez loin, le mort-vivant délivra son oncle qui tremblait encore de peur. « Ça, dit le mort-vivant, il faut que je m'en aille. Allez, donne-moi vite les quatre choses que tu me dois. Je choisis ce vieux chapeau tout cabossé, ce vieux manteau tout rapiécé, cette vieille épée tout ébréchée et cette vieille pantoufle dépareillée. Qui t'a dit la valeur de ces vieilleries ? Bon, que m'importe. Et d'ailleurs, tout cela ne vaut rien pour toi, qui es en état de péché mortel. » « C'est vrai, dit le géant, en entendant, remettant les objets à son neveu. « Moi, reprit le mort-vivant, parce que je suis en état de grâce, ce chapeau me procurera tout savoir, ce manteau me rendra invisible, et cette pantoufle chaussée au pied gauche me donnera la rapidité de l'éclair. Quant à cette épée, elle coupera tout ce que je lui ferai frapper, fût-ce un mur de diamants, une coin de rhinocéros ou une peau de démon. » Guidé par le mort-vivant, le prince généreux arriva bientôt chez la belle possédée. Le soir même, la reine offrit un festin magnifique à ce prétendant. Mais le repas achevé, elle essuya sa bouche avec un mouchoir, puis, cachant ce mouchoir dans sa robe, elle dit au fils du roi d'Arles, « Si vous ne me montrez ce mouchoir demain matin, je vous ferai couper la tête. » Au milieu de la nuit, ces démons transportèrent la belle possédée dans les régions infernales et elle remit son mouchoir à un diable des plus terribles. Mais par le chapeau de science, le mort-vivant avait su ce qu'il fallait faire. Revêtu du manteau d'invisibilité et de la sandale de vitesse, il avait suivi la dame. Personne ne soupçonnait la présence d'un étranger, et il put sans peine s'emparer du mouchoir. On devine l'étonnement et la colère de la reine quand le prince généreux lui montra ce mouchoir. Mais elle ne laissa rien voir de ses sentiments et invita de nouveau le prince à souper. À la fin du repas, elle dit « Cette nuit, j'embrasserai quelqu'un. Si demain, vous ne me montrez la tête que j'aurai baisée, je ferai couper la vôtre. » À minuit, elle descendit aux enfers et querella le démon qui avait laissé prendre le mouchoir. Puis elle s'adoucit, lui expliqua comment elle avait réparé sa négligence et l'embrassa sur les lèvres. Le mort-vivant était là, naturellement, invisible et attentif. Dès que la dame fut partie, il prit à deux mains l'épée qui coupe tout ce qu'elle frappe, il frappa le cou du démon et rapporta la tête au prince. Il lui dit « Vous avez payé mes dettes, eh bien je vous donne de quoi payer votre dette, adieu !» et il disparut ainsi que les objets magiques donnés par le géant. Quand le prince généreux montra à la belle possédée la tête qu'elle avait embrassée, elle s'écria « Oh, ces démons sont vraiment trop bêtes, ils me dégoûtent à la fin !» Elle éclata de rire et elle fut délivrée. Car, monsieur le curé ne le sait peut-être pas, mais le rire est le meilleur exorcisme. C'est lui qui délivre des démons les plus obstinés. Le soir même eurent lieu les noces de la reine et du fils du roi d'Arles. Ils furent heureux, vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants.